Le Monde aujourd'hui, édition du lundi 12 septembre 2022. Jean-Roger Billon à ce micro. Bonsoir à tous. À la une de nos informations. Au Sénégal, retard dans l'installation de la nouvelle législature. Nous rejoindrons dans un instant notre correspondant de la capitale sénégalaise pour nous décrire ce qui se passe à l'Assemblée nationale. L'Ouganda a versé à la RDC la première tranche des 325 millions de dollars de réparation de guerre. Éthiopie, la communauté internationale appelle à saisir l'opportunité de paix après une offre de négociation des rebelles du Tigré. L'armée ukrainienne dit enchaîner les succès et Kiev poursuit la reconquête dans le nord-est du pays. Ne manquez pas dans cette session d'information la minute éco et les sports, mais tout d'abord le journal. Des couacs dans la mise en place de la nouvelle législature au Sénégal, des questions de procédure ont retardé l'installation des députés nouvellement élus dans leurs fonctions. Il y a eu plusieurs heures de retard au démarrage des travaux et même certains parlementaires ont brandi des coups de poing. Notre correspondant à Dakar, Sidina Abagay, est à l'Assemblée nationale.
Un inconnu au perchoir, tel pourrait être le titre de cette journée qui est déjà mouvementée à l'Assemblée nationale du Sénégal. Alors que tout le monde attendait Aminata Touré dite Mimi comme première femme présidente du Parlement, c'est finalement Dr Amadou Mam Diop qui a été choisi par la coalition au pouvoir Benno Bokyakar pour être à la tête de la deuxième institution du pays. L'élection n'a pas encore eu lieu, mais c'est une véritable surprise pour beaucoup de Sénégalais, y compris les membres de la coalition présidentielle. Car à défaut de l'ancienne Premier ministre Aminata Touré, c'est Amadou Ba, ancien ministre des Finances, qui était pressenti pour occuper la présidence du Parlement sénégalais. C'est donc avec beaucoup de surprise que cette décision du président Macky Sall, par ailleurs chef de la coalition au pouvoir, a été accueillie. Au-delà de ce fait inattendu, il faut noter un retard de près de 5 heures dans le début des travaux dû à des tractations conciliabules et de fortes tensions entre les nouveaux élus du pouvoir et ceux de l'opposition. Des échauffourées ont même eu lieu au sein de l'hémicycle avec des députés qui ont failli en venir aux mains. Jusqu'à présent, des débats sur le règlement intérieur et le cumul de fonctions de certains ministres avec le poste de député empêchent la tenue de l'élection du président de l'Assemblée nationale, Seydina Bagay à Dakar, pour VOA Afrique.
Les autorités de Guinée ont bon espoir que le procès réclamé de longue date du massacre au stade de Conakry en 2009, événement saillant de l'histoire contemporaine du pays, s'ouvre avant fin septembre, a dit aujourd'hui le ministre de la Justice, Alphonse Charles Wright. Le ministre qui s'exprimait à Genève devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU n'a pas énoncé de date plus précise à 20 jours de la fin du mois. L'instruction judiciaire s'est achevée en décembre 2017, avec le renvoi d'une douzaine de prévenus devant un tribunal, dont Moussa Dadis Camara. Le président libérien George Weah a accepté aujourd'hui la démission de trois hauts responsables accusés par l'administration américaine de corruption et détournement présumé, a annoncé aujourd'hui le bureau de la présidence. Nathaniel McGill, l'ancien ministre des Affaires présidentielles et directeur de cabinet du président, Bill Touwe, à la tête de l'autorité portuaire nationale, et Sema Sirenus Keifas, procureur général, ont tous trois démissionné selon deux communiqués de la présidence. L'affaire a fait la une des journaux Libéria. Pendant des semaines, le président Weah avait été critiqué par les leaders de l'opposition et les groupes de défense des droits de l'homme pour ne pas les avoir limogés. L'Ouganda vient de payer 65 millions de dollars à la République démocratique du Congo comme premier versement des 325 millions de dollars de dommages et intérêts auxquels la Cour internationale de justice l'avait condamné pour avoir envahi ce pays voisin entre 1998 et 2003. Edi Sango.
Les fonds versés par Kampala sont logés dans un compte transitoire du ministère de la Justice de la RDC dans une banque locale. Ce compte ne pourra être actionné qu'après la mise en place effective du fonds spécial des réparations et d'indemnisation des victimes, indique la ministre de la Justice Rose Mutombo dans les derniers comptes rendus du Conseil des ministres. Kampala doit verser annuellement 65 millions de dollars à la RDC pendant 5 ans. En février, la Cour internationale de justice avait fixé à 325 millions de dollars les réparations que Kampala doit payer à Kinshasa pour avoir envahi la RDC durant la Deuxième Guerre du Congo de 1998 à 2003. Kinshasa réclamait 11 milliards de dollars. Kampala avait de son côté estimé ces jugements injustes et erronés et regretté que cette décision soit intervenue à un moment où les deux pays continuent à renforcer les relations. Pour la Cour internationale de justice, les 225 millions devaient être payés pour les pertes en vies humaines, 40 millions pour les dégâts causés aux biens et 60 millions pour les dommages aux ressources naturelles. Depuis fin novembre, Kinshasa et Kampala mènent conjointement des opérations militaires contre les ADF sur le sol congolais.
La communauté internationale a appelé à saisir l'opportunité de paix en Éthiopie au lendemain de l'annonce des rebelles du Tigré qui ont dit accepter des négociations sous l'égide de l'Union africaine. Nathalie Bage.
Le Front de libération du peuple du Tigré a annoncé dans un communiqué hier soir être prêt à respecter une cessation des hostilités immédiates afin de créer une atmosphère propice. L'Union africaine s'est félicitée de cette annonce qu'elle qualifie d'opportunité unique. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, et le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, ont également appelé les deux parties à saisir cette opportunité. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a appelé les dirigeants du pays à mettre l'Éthiopie sur une voie qui permette une paix durable. L'Érythrée et d'autres doivent cesser d'envenimer le conflit, a-t-il déclaré. Dans une lettre adressée à Antonio Guterres quatre jours plus tôt, le chef du TPLF, Debretsion Gebremichael, avait proposé une trêve sous condition d'accès humanitaire et du retour des services de base au Tigré. La reprise des combats le 24 août a interrompu l'acheminement de l'aide humanitaire dans les régions du Tigré, de l'Amara et de l'Afar.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Grande-Bretagne, Charles III s'est adressé aujourd'hui pour la première fois au Parlement britannique en tant que souverain. Le nouveau roi a dit dans un court discours ressentir le poids de l'histoire après avoir reçu les condoléances des deux chambres du Parlement. Le roi Charles III a mené par ailleurs lundi dans le silence et entouré de ses frères et sœurs la procession menant le cercueil d'Élisabeth II à la cathédrale Saint-Gilles d'Édimbourg où il est exposé pour la première fois au public au début d'une semaine d'adieu. Le cercueil de la reine reposera pour une nuit de veille à Édimbourg, la capitale écossaise, avant d'être transporté par avion à Londres demain mardi. L'armée ukrainienne a annoncé aujourd'hui de nouveaux succès dans sa contre-offensive sur le front Est, mais aussi une progression dans le sud face à la Russie. L'électricité qui était coupée dimanche dans une partie du pays a été en partie rétablie. Le point avec Mouamadou Mfa.
Dans la partie orientale, la libération des localités se poursuit dans les régions de Kharkiv et Donetsk, a proclamé l'armée ukrainienne qui revendique aussi la reconquête de 500 km² de territoire en deux semaines dans le sud. L'Ukraine affirme avoir repris environ 3000 km² dans les environs de Kharkiv, dans le nord-est, depuis début septembre. L'un des principaux dirigeants des séparatistes pro-russes, Denis Pouchiline, a reconnu une situation difficile face à la contre-offensive ukrainienne, tout en assurant que les forces russes tiennent bon. Les Russes ont affirmé avoir bombardé des zones récupérées par l'Ukraine, non loin de Kharkiv, et l'offensive russe va continuer jusqu'à ce que les objectifs soient atteints, a martelé le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov. Dans les régions de l'est, du nord, du sud et du centre de l'Ukraine, qui ont subi dimanche soir de vastes coupures d'électricité imputées par Kiev à des frappes russes, le courant est en partie revenu. Dans la région de Kharkiv, 80% de l'approvisionnement en électricité et en eau a été rétabli, selon les autorités ukrainiennes.
Le président chinois Xi Jinping se rendra cette semaine en Asie centrale, où il rencontrera son homologue russe Vladimir Poutine pour son premier déplacement à l'étranger en plus de deux ans. Vladimir Poutine a expliqué que Moscou se tournait vers l'Asie pour tisser de nouveaux liens économiques et trouver de nouveaux marchés pour ses exportations d'hydrocarbures. Le chancelier allemand Olaf Scholz a dit à Berlin, en recevant son homologue israélien Yair Lapid, regretter que l'Iran n'ait pas encore donné de réponse positive aux propositions des coordinateurs européens sur le nucléaire iranien. Après un an et demi de discussions destinées à relancer l'accord de 2015, puis suspendu en 2018, Berlin, Londres et Paris avaient déjà exprimé samedi de sérieux doutes sur la réelle volonté de Téhéran. 6 Syriens, dont 2 nouveaux-nés, sont morts de soif et de faim alors qu'ils tentaient de traverser la Méditerranée à bord d'une embarcation de fortune en espérant accoster en Italie, a annoncé aujourd'hui le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés. Les victimes sont 2 enfants de 1 et 2 ans, 1 de 12 ans et 3 adultes, dont la grand-mère et la mère faisaient partie des 26 survivants pris en charge à Posalo en Sicile, selon un communiqué du HCR. Voilà pour le journal, vous suivez VO Afrique. À présent, la minute éco avec Mouamadou Moufa.
Le conseil d'administration de la Banque islamique de développement a approuvé le 10 septembre un financement de 32 millions d'euros en faveur du Cameroun. Ce financement est un appui à la reconstruction d'infrastructures détruites ou endommagées par un conflit qui sévit depuis 2016 dans les régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Le président camerounais avait lancé un plan de reconstruction estimé à 154 milliards de francs CFA, mais jusqu'en juillet, le pays n'a mobilisé que 7,4% de ce montant. Le ministre égyptien des ressources en eau et de l'irrigation a déclaré dimanche que l'Égypte était l'un des pays les plus touchés au monde par le changement climatique. Une déclaration faite durant la séance d'ouverture d'un forum sur l'environnement et le développement consacré aux préparatifs de la COP27. L'Égypte souffre d'une pénurie d'eau, de températures élevées, de phénomènes d'érosion et de l'intrusion de l'eau de mer dans son eau douce, a précisé le ministre. Quelques 500 livreurs africains de la plateforme de livraison des repas Uber Eats ont manifesté lundi à Paris devant le siège français de la firme américaine après la déconnexion de 2500 comptes de travailleurs identifiés comme frauduleux. Selon Uber, ces nombreuses désactivations sont la conséquence d'un audit diligenté après la signature d'une charte avec le gouvernement français afin de lutter contre la sous-location irrégulière des comptes de livreurs.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous.
Football pour commencer et on disputait le premier tour de qualification des matchs interclubs de la CAF.
Oui, en Ligue des Champions, ça s'est bien passé pour les Ivoiriens de l'ASEC Mimosa qui se sont imposés au Bénin face au Cotons FC de Ouidah, 2-1. Un bon résultat avant le match retour, mais pour Julien Chevalier, l'entraîneur du club d'Abidjan, il faut rester vigilant.
C'était un premier match et on sent qu'on doit encore se roder. On a un effectif qui a beaucoup bougé et puis une préparation qui a été perturbée avec 10 joueurs absents pendant 15-20 jours. Donc il faut ramener tout le monde ensemble et retrouver la connexion.
Les Sénégalais de Casa Sport aussi doivent rester vigilants après leur court succès 1-0 devant les Algériens de la JS Kabylie, tout comme les Éthiopiens de Saint-Georges, 2-1 face aux Soudanais d'Al Hilal. Ça cale par contre pour les Maliens de Djoliba et les Congolais de l'AS Otowo Doyo, battus 2-0 respectivement par les Équato-Guinéens de Deportivo Mongomo et les Sud-Africains de Cape Town. Mauvaise opération aussi pour l'AS Vita Club de Kinshasa qui s'est incliné 1-0 devant Gaborone United. Tout reste encore ouvert entre les Togolais de l'AS Co de Kara et les Mauritaniens du FC Noidibou qui se sont neutralisés 1-0.
On joue aussi le tour préliminaire aller qualificatif pour la Coupe CAF.
Oui, et ça s'est mal passé pour les Nigériens de l'AS Douane lourdement battus 3-0 au Nigeria par Kwara United. Défaite également, mais à domicile des Béninois du Buffle du Bourgou, 1-0 face au Sierra Leone de Kalon FC. Tout est encore possible par contre pour les Ivoiriens de Gagnois après leur nul 0-0 au Liberia face à l'Iskra, de même que les Nigériens de Remo Star, auteur d'un but partout, au Maroc contre la SFA. Les matchs retour se joueront en fin de semaine.
Hakim Ziyech retrouve les Lions de l'Atlas.
Le milieu offensif de Chelsea, Hakim Ziyech, va faire son grand retour avec la sélection marocaine. L'annonce a été faite par le nouveau sélectionneur Walid Regragui. La communication entre nous a été claire. Je lui ai expliqué qu'on veut les meilleurs joueurs dans l'équipe nationale. Il en fait partie. Il avait envie de revenir. Soutient Regragui, nommé fin août à la tête des Lions de l'Atlas. La star marocaine de 28 ans avait annoncé début février sa retraite internationale suite à une brouille avec l'ex-coach Vahid Halilhodžić qui lui reprochait un manque de respect menaçant selon lui la cohésion du groupe. Au Qatar, versé dans le groupe F, le Maroc affrontera la Croatie, la Belgique et le Canada.
Page des sports VO Afrique signée Yacouba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Au Togo, les syndicats et le gouvernement se sont retrouvés pour faire le point de l'exécution du cahier de revendications des acteurs sociaux, surtout du secteur de l'éducation et de la santé. À la veille de la rentrée scolaire, les syndicats d'enseignants se font souvent entendre, ceux de la santé aussi, de Lomé, notre correspondant Kossi Wusu.
Un vent d'optimisme a soufflé à la fin de la dernière réunion des membres du cadre national du dialogue social élargi aux responsables des syndicats de l'éducation et de la santé. Malgré les avancées, ces derniers ont saisi l'occasion pour rappeler quelques points qui leur tenaient à cœur. Kaditam Kofi, le secrétaire général de la Fédération des syndicats des enseignants du Togo.
Vous savez que depuis un certain temps, il y a eu exonération des frais de scolarité. Et la première expérience a été amère parce que pour avoir les fonds de fonctionnement, chefs d'établissement ont dû vraiment avoir assez de problèmes. Nous avons également évoqué la rentrée qui se fait en fonds de fichiers parce que nos pouvoirs sont déjà trop fragiles et le phénomène de fichiers a érodé cette fragilité.
Au niveau de la santé, Dr Chalenyanou du syndicat du personnel hospitalier évoque ce qui reste à satisfaire de leur plateforme revendicative.
Et nous avons donc rappelé au gouvernement les autres points qui restent. Il s'agit de recruter avant la fin de cette année 2596 agents et les autres points, les équipements. Il y a eu une demande claire de la part des partenaires sociaux de revaloriser le SMIC et les salaires.
Gilbert Bawara, le ministre de la fonction publique estime que le gouvernement prend en compte les préoccupations des syndicats.
Le gouvernement a annoncé que dans les prochains jours, les résultats du dernier concours de recrutement des enseignants sera proclamé. Dans le secteur de la santé, c'est la même satisfaction qui a été constatée. Non pas que toutes les préoccupations sont réalisées, mais qu'il y a des pas de géant qui ont été franchis. La question du SMIG doit davantage être abordée dans un esprit de négociation sociale.
Le gouvernement évoque les conjonctures économiques et sécuritaires pour expliquer la lenteur dans la mise en œuvre de certaines revendications. Même si les syndicats appréhendent la situation, ils demeurent quand même vigilants. Odesso Komi Nyakwagbe de la Confédération syndicale des travailleurs du Togo.
Nous sommes satisfaits qu'ils ont commencé en nous expliquant un peu la situation sécuritaire au nord de notre pays. Mais nous avons dit que à la fin de cet exercice budgétaire, il faut que le gouvernement puisse penser à relever le niveau de vie des ménages. Ça veut dire que nous comptons jusqu'en décembre pour voir qu'est-ce que le gouvernement va faire.
Une légère pression sur le gouvernement en lien avec les dernières hausses des prix du carburant et du gaz butane qui ont érodé le pouvoir d'achat de la population. Pour l'instant, c'est toujours la paix des braves. Mais jusqu'à quand? Kossi Wusu, Lomé pour VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24 heures sur 24 à Lomé sur 102.3 FM.
Les autorités camerounaises affirment que des semaines d'inondations le long de ses frontières nord avec le Tchad et le Nigeria ont emporté des villages entiers. Conséquence, des milliers de personnes sont sans abri. Une assistance à ces populations est en cours et de nombreuses écoles, mosquées et églises fournissent un abri provisoire. Mais les groupes humanitaires disent que leurs moyens sont limités face aux énormes besoins. Un reportage de Moki Edwin Kinzeka de Mokolo au Cameroun. Le récit est d'Abdourahmane Diaye.
De fortes pluies sont tombées à Mokolo, une commune commerciale et agricole à la frontière nord du Cameroun avec le Nigeria. Les responsables camerounais décrivent Mokolo comme le grenier de cette région du nord du Cameroun. Aman Adama est le porte-parole des personnes déplacées dans le département de Moyo-Sanaga, à la frontière nord du Cameroun avec le Tchad et le Nigeria.
Nous qui faisons dans la culture du sorgho principalement, nous avons enregistré beaucoup de dégâts dans certains bassins de production comme dans la zone de Boula, dans la zone de Mambaria, dans le Moyo-Sanaga. Donc l'incidence des inondations du mois d'août-septembre va se prolonger sur les cultures qui commencent d'octobre pour se terminer au mois de février-mars.
Selon Adama, plusieurs milliers de personnes se sont réfugiées dans les écoles, des hôpitaux, des églises et des mosquées des villes et villages non inondés. Des groupes et des agences humanitaires fournissent de la nourriture et des médicaments à ceux qui ont perdu leur maison, leurs champs et leurs animaux. Les agents humanitaires se disent incapables de répondre aux besoins croissants des déplacés. Le gouvernement affirme que les fortes inondations sont en partie causées par les pluies saisonnières et les eaux du lac Tchad et Maga à proximité. Le Cameroun affirme qu'une approche régionale avec le Tchad et le Nigeria est nécessaire pour réduire les dégâts causés. Christophe Bring est le chef du département des études et des projets au ministère camerounais de l'environnement à Yaoundé.
La semaine africaine du climat de Libreville est donc une opportunité pour les États partis africains de renforcer leur position, d'accompagner leur choix en rapport avec notre engagement pris à Paris à la COP21. Et cela nous donnera donc la possibilité d'avoir une position un petit peu plus claire et d'évoluer en rang serré lors de la COP d'Égypte en novembre.
Ce cadre du ministère camerounais de l'Environnement déclare que les inondations dans le nord du pays sont causées par de fortes pluies résultant de perturbations climatiques tropicales, de la déforestation et de pratiques agricoles inappropriées. Il ajoute que des milliers de familles sont devenues sans abri parce qu'elles ont construit des maisons et des quartiers dans des zones inondables. Les autorités camerounaises affirment que la zone frontalière avec le Tchad et le Nigeria abrite environ 550 000 personnes déplacées et quelques 70 000 réfugiés nigérians. Parmi ces déplacés figurent des civils qui ont fui les conflits entre les éleveurs et les pêcheurs pour l'accès à l'eau.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Au Burkina Faso, après plusieurs années de crise, le secteur coton qui renaissait de ses cendres est encore dans la tourmente. Des insectes ravageurs détruisent tout sur leur passage. Pour le moment, aucun traitement n'arrive à les arrêter et c'est le désarroi chez les producteurs. Le reportage de notre correspondant à Bobo-Dioulasso, Alidou Ouedraogo.
À Houndé, à une centaine de kilomètres de Bobo-Dioulasso, le constat est alarmant. Des cotonniers recouverts d'insectes commencent à perdre leur verdeur et des dizaines d'hectares de cultures sont desséchés. Les bras croisés, le regard vide, François Tani ne sait plus à quel sein se vouer.
Quand tu vois le coton, et surtout les derniers semis là, tous ces cotonniers là sont ravagés. Les feuilles ont jauni, ils commençaient à rougir, ça veut dire que ça commençait à sécher chez la plante. Et la plante n'arrive pas à développer. Donc il n'y a plus de fleurs, il n'y a plus de capsules.
Qu'est-ce qui explique ce phénomène inhabituel et quelle solution? Omer Emma est entomologiste.
Alors, les ravageurs qui sont incriminés sont en fait des cicadelles. Ce sont de petits insectes de couleur verte qui vivent sur la face inférieure des feuilles de cotonnier. Ces ravageurs prolifèrent de manière très rapide. C'est un ravageur qui va donc ponctionner la sève élaborée qui a donc été fabriquée par les feuilles pour nourrir donc les différentes parties du cotonnier. Actuellement, il faut privilégier la lutte chimique. C'est quoi? C'est l'utilisation donc des insecticides chimiques de synthèse. Il faut privilégier donc l'utilisation de produits dits de type 3.
Le visage sombre, si ça coule la quarantaine dépassée, traite désespérément ce qui lui reste de ses 8 hectares.
Il me dit de traiter avec le troisième type. Je l'ai traité. Toutes mes parcelles là ont reçu les deux traitements. Troisième type. Toujours ça persiste. Maintenant, je ne sais même pas qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut laisser ou il faut continuer?
Les conséquences peuvent être désastreuses, de l'avis du directeur de développement de la production cotonnière de la société burkinabé des fibres textiles, Ousseni Kabore.
Quand vous avez des attaques sévères, vous avez des baisses de production. Les baisses de rendement sont attendues. Parce que, quand je l'ai dit, le tiers supérieur, quand vous prenez la plante, vous divisez ça en trois parties. C'est-à-dire que la partie supérieure, quand c'est attaqué, a des problèmes justement pour avoir des capsules. Donc, cette partie de la production peut être perdue. Donc, on peut dire que c'est pratiquement 30% en termes de perte de production.
Les attaques de ces ravageurs qui se manifestent habituellement dans les zones frontalières de Côte d'Ivoire et du Mali ont maintenant atteint tout le territoire. Alidou Ouedraogo à Bobo Dioulasso pour VOA Afrique.
Abdourahmane Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, le dialogue national inclusif et la tension politique au Tchad. Alors que ce forum a du mal à progresser, l'Église catholique a annoncé qu'elle suspendait sa participation. Pendant ce temps, le bras de fer se poursuit entre le pouvoir et le parti Les Transformateurs qui a boycotté le dialogue national. Plusieurs membres de cette formation politique sont arrêtés, mais la convocation de son leader, Succès Masra, a été suspendue par la justice. Que faut-il attendre de ce dialogue national au Tchad et comment interpréter la tension politique dans ce contexte? Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique, voaafrique.com.
Une fois de plus, à l'occasion du 21e anniversaire des attentats du 11 septembre aux États-Unis, les Américains se sont rassemblés pour marquer cette date et pleurer ceux qui y ont perdu leur vie. Reportage Marcus Harton, récit Yacouba Ouedraogo.
Le président Joe Biden a déposé une gerbe de fleurs dimanche au Pentagone, non loin de Washington. 184 personnes y ont été tuées lorsqu'un avion détourné a percuté le bâtiment. Biden reconnaît le chagrin éprouvé par les familles des personnes disparues et s'est engagé à maintenir la vigilance des États-Unis contre de futures attaques.
Aucun terroriste ne pourrait toucher à la source de la puissance américaine. Et il nous incombe de la garder en sécurité au nom de tous ceux que nous avons perdus il y a 21 ans. Au nom de tous ceux qui donnent leur âme entière à la cause de cette nation chaque jour. C'est un travail pour nous tous.
À New York, la vice-présidente Kamala Harris et son époux, le deuxième gentleman Doug Emhoff, ont assisté à une cérémonie sur une place commémorative où se dressaient autrefois les tours jumelles du World Trade Center.
Jaime Concepcion.
Albert Condé.
Denise.
Les familles ont lu à haute voix les noms des victimes, s'arrêtant pour des moments de silence à l'heure où les avions de ligne ont frappé les deux tours, faisant près de 3000 morts. Le mari de Diane Massaroli, Michael, travaillait au 101e étage de la tour Nord.
C'était la meilleure personne de tous les temps. Le meilleur père, le meilleur mari, un rude travailleur. Il adorait jouer au bowling, juste une personne géniale. C'est pour ça que j'y vais chaque année et je montre sa photo même à des gens qui ne l'ont jamais vu. Juste le connaître et se souvenir de son visage parce que c'était une vie qui valait quelque chose.
My cousin, Louis Joseph Nagy II.
Au Mémorial national du vol 93 à Chanksville, en Pennsylvanie, la première dame, Jill Biden, a pris la parole. Elle a parlé des passagers de la compagnie aérienne qui ont fait tomber leur avion détourné, déjouant ainsi une attaque prévue contre Washington.
So as we stand on this sacred...
Ainsi, nous nous tenons sur cette terre sacrée et cicatrisée.
And a monument.
C'est un souvenir de notre chagrin collectif et un monument aux souvenirs qui vivent en nous chaque jour. C'est l'héritage que nous devons transmettre. Un espoir qui défie la haine, l'amour qui défie la perte et les liens qui nous unissent à travers tout cela.
And the ties that hold us together through it all.
D'autres communautés à travers le pays ont organisé des commémorations, notamment des veillées aux chandelles, des services œcuméniques et d'autres façons de marquer cette date du 11 septembre.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro, à la mise en onde Michel Joseph. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.
Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry. 92.3 FM, Radio Wentanga. Wayegouya, Burkina Faso. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.